Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune?
Ouais, c'est pas faux. Alors, pour remédier à ça, Rando Champeau explore les filières de la fac d'Albi à la rencontre des enseignants-chercheurs. Pour tout savoir sur la licence qui vous convient, Rando Champeau, c'est tous les mercredis à 13h et en podcast sur cfmradio.fr.
Bonjour et merci d'écouter Rando Champeau sur CFM Radio, un rendez-vous entièrement dédié aux offres de formation de l'Institut National Universitaire Champollion d'Albi. Dans chacun des numéros, un responsable de filière de l'université nous intéressera au contenu de la filière dont il a la charge et indiquera les potentiels débouchés qui s'ouvrent aux diplômés universitaires. Nous nous servirons aussi de cette opportunité pour pousser la porte des laboratoires de recherche du campus d'Albi afin de discuter avec les enseignants-chercheurs d'Albi qui seront chiches à vulgariser leurs sujets et thèmes de recherche et auront la lourde tâche de démocratiser la recherche universitaire. Quelques informations et chiffres avant de parler de formation. Avant 1992, ceux qui souhaitaient suivre des études universitaires ici dans le Midi-Pyrénées n'avaient pas d'autre choix que d'aller à Toulouse. En 2002, un centre universitaire de formation et de recherche, toujours rattaché aux grandes universités toulousaines, coordonne l'offre de formation dans le nord Midi-Pyrénées, c'est-à-dire Rodez, Castres et Albi. Depuis cette dernière entrée universitaire, le centre universitaire de formation et de recherche d'Albi est devenu autonome et aujourd'hui, l'Institut National Universitaire Champollion d'Albi compte près de 3000 étudiants à qui elle propose 28 formations que l'on pourrait classer en 4 catégories, à savoir droit, économie et gestion, sciences humaines et sociales, arts, lettres et langues et enfin sciences, technologies et santé. 28 formations diversifiées qui découlent vers une vingtaine de licences générales ou professionnelles et une dizaine de diplômes de niveau master. L'Institut National Universitaire Champollion d'Albi accueille également des étudiants en doctorat ou post-doctorat qui sont encadrés par des enseignants-chercheurs qui, vous l'entendrez, sont moins loufoques que les légendes ne le laissent entendre et en tout cas plutôt pragmatiques dans leurs recherches. Dans ce premier numéro de Rando Champeau, la faculté d'histoire, entretien avec Sandrine Victor, responsable de cette filière.
Donc, je m'appelle Sandrine Victor, je suis maître de conférence en histoire médiévale. Et je suis la responsable de la licence d'histoire à l'université de Champollion.
Vous l'avez dit dans la présentation, professeur en histoire médiévale, vous vous intéressez beaucoup à cette époque, l'époque médiévale. Pourquoi s'intéresser à l'histoire médiévale?
Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. D'abord parce que c'est une période passionnante. On a 10 siècles, donc du 5e au 15e siècle. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, il y a beaucoup de contrastes. Et puis c'est une période qui, mine de rien, n'est pas si éloignée de la nôtre parce qu'il y a beaucoup de nos racines actuelles qui sont plongés dans ce Moyen-Âge, mais qui sont aussi plongés dans l'Antiquité. Notre droit est un droit romain, par exemple. On a beaucoup de choses. Nos villes sont des villes qui ont au départ un tissu médiéval, bien souvent. Regardez Albi, il n'y a pas besoin d'expliquer longtemps pour comprendre qu'on baigne dedans, sans pour autant, bien sûr, le connaître. Hein, l'image du Moyen-Âge est souvent une image assez fausse. Où il fait barbare, il fait froid, il pleut, ils ont tous la peste, enfin voilà. Et donc je pense que l'historien du Moyen-Âge a d'autant plus à faire qu'il a beaucoup à détricoter pour pouvoir retricoter une vérité historique que, bon, si on peut arriver à avoir une vérité historique, bien sûr, mais en tout cas pour donner des pistes aux gens, sachant que le Moyen-Âge a en plus beaucoup de fans, les séries, etc., brode beaucoup autour du Moyen-Âge et moi j'aime beaucoup discuter avec les étudiants de ça parce qu'ils ont une image un peu Game of Thrones ou voilà et sans pour autant nier ça, il faut pouvoir discuter avec eux pour qu'ils fassent la part des choses. Moi je pense qu'ils savent que quand même les dragons n'existent pas.
Quoique. On reviendra sur l'histoire médiévale dans le second volet de l'entretien que nous avons, mais je reviens encore sur une question très générale et là vous me répondez pas pourquoi pas. Pourquoi étudier l'histoire?
Parce que c'est l'histoire pour moi, c'est la fabrique du citoyen. Étudier l'histoire, c'est étudier pourquoi on est ce qu'on est, citoyen, dans la société dans laquelle on vit. c'est connaître notre nation, connaître notre structure, comprendre pourquoi on vote, comment on vote. C'est étudier l'histoire, c'est en fait appuyer notre présent sur notre passé. Mmh. Alors, il faut aller contre un petit peu ce qu'on dit souvent, hein, c'est en connaissant le passé qu'on va pouvoir prévenir l'avenir, personne ne prédit l'avenir, quoi que ce soit. Mais quand vous voyez l'actualité, tous les jours, on est submergé d'informations. L'histoire donne aux jeunes les clés de décodage. On ne peut pas comprendre l'actualité si on n'a pas quelques billes, si on n'arrive pas à mettre les choses dans du temps long. Comprendre les notions de temps, on est dans des sociétés instantanées où il faut, vous voyez, les réactions, il faudrait faire une loi tout de suite derrière quelque chose qui se passe dans l'actualité, etc. Et l'histoire nous donne le temps, nous donne la respiration et surtout nous donne un fondement vraiment de culture pour comprendre notre milieu.
De manière caricaturale, vous l'avez dit, on a toujours l'impression qu'étudier l'histoire, c'est se tourner vers le passé, c'est clairement un stéréotype pour vous.
Oui, pour moi, clairement non. Moi, je n'ai pas l'impression de vivre dans le passé. Au contraire, j'ai l'impression d'avoir des armes pour comprendre mon présent. Et comprendre ce que je vois, comprendre le monde qui est autour de moi et aussi m'étonner parce que en fait l'histoire c'est une curiosité intellectuelle, une curiosité de tous les jours et c'est, quelquefois on s'étonne par exemple d'antagonisme entre deux pays alors qu'on sait que par le passé on n'a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu d'antagonisme et d'un coup il y en a un qui surgit. Donc ce qui est intéressant avec l'histoire c'est d'avoir ces éléments qui vont nous donner une grille de lecture. Et qui vont peut-être être à la base de conversations, de discussions entre amis, hein, tout simplement, pour en fait se dire, bah, attends, il y a l'actualité, il y a ce que l'on voit, et puis il y a ce que l'on est, et on est vraiment avec des racines historiques.
Vous êtes responsable ici à l'Université d'Albi, de la faculté d'histoire. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous la présenter, et comment s'organisent les cours ici à la faculté d'Albi ?
En fait, nous, on a deux, à l'Université d'Albi, il y a deux possibilités. Il y a la licence d'histoire, et puis ensuite, on a un master qui fait partie hein, de la filière histoire sans pour autant être de spécificité historique. Je vous l'expliquerai peut-être un peu plus tard. Donc, la licence d'histoire, en fait, on a trois années de cours qui se passent après le bac et qui conduisent donc les étudiants jusqu'au master. Donc, alors, comment ça se passe ? On a trois types, si vous voulez, de parcours. Donc, je ne sais pas si vous êtes très familier de
la...
Voilà, ça change tout le temps et tout. Donc, en fait, les étudiants se lancent dans une licence d'histoire, mais ils ont la possibilité de mettre une couleur à leur histoire. C'est-à-dire qu'ils ne font pas forcément de l'histoire 100%. Donc, à Albi, on propose de faire de l'histoire avec un parcours de géographie. C'est-à-dire qu'ils font de l'histoire avec une petite mineure de géographie, parce qu'on pense qu'il est important, la transversalité est importante. Comprendre le temps, c'est comprendre l'espace, qu'il faut comprendre le monde dans sa globalité, et qu'avec la géographie, on a des rapports un peu naturels hein, de histoire-géo, hein, c'est ce qu'on voit au lycée, voilà. Alors ça, souvent, ce parcours de cette mineure de géographie est prise par des gens qui veulent aller après vers les concours de l'enseignement, parce que c'est des questions de concours, hein, c'est histoire et géo. Ensuite, on propose à partir de la deuxième année un parcours qui s'appelle Vers les métiers de l'éducation et qui permet de préparer les étudiants au concours de recrutement de l'école primaire. Donc là, on a plutôt de la pédagogie, la psychologie de l'enfant, et puis on va faire aussi de l'histoire... des lettres, des mathématiques, mais dans leur pan pédagogique. Donc là, pour le coup, ils se préparent à devenir un stit. Voilà. Et puis donc là, c'est la nouveauté, donc c'est un peu un scoop que vous avez. l'année prochaine, on met en place un autre parcours qui est un parcours histoire centré histoire, c'est-à-dire qu'on fait de l'histoire et on propose en plus vraiment des outils d'historien. Donc on va proposer aux étudiants eh bien, de réfléchir autrement l'histoire, c'est-à-dire pas simplement réfléchir en termes de période, couper l'histoire en petits bouts, hein, histoire antique, médiévale, moderne, contemporaine, bon, c'est un peu réducteur. Donc on propose par exemple de travailler un thème sur du longtemps, donc travailler par exemple, l'histoire du genre depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. On va travailler par exemple la représentation de l'espace, comment on fait des cartes depuis l'Antiquité jusqu'à la contemporaine. Et puis leur donner des vrais outils d'historien, que sont par exemple la paléographie, hein, l'art de lire les écritures anciennes, l'archéologie, on va faire de l'épigraphie, hein, lire les écritures romaines et antiques, on va faire de l'histoire de l'art, enfin voilà, des choses qui vont compléter l'enseignement disciplinaire de la licence d'histoire, qui vont renforcer la curiosité des étudiants, renforcer un peu leur culture générale autour de l'histoire, et puis leur donner des billes pour au final réussir après la licence, soit à partir sur de la recherche, soit à partir sur le patrimoine, hein, connaître la valorisation du patrimoine, voilà, d'autres métiers que les concours de l'enseignement qui, somme toute, ne sont pas les plus prisés par nos étudiants.
Durant cette formation, quel est le pourcentage ou l'équilibre entre la théorie, la pratique, des stages? Comment ça se passe durant les 3 années de formation?
Alors, les cours, en général, donc, on a toujours une partie théorique, hein, en cours magistral, et puis ensuite, on a des TD. Donc, ce sont des petits groupes de travail. C'est vrai qu'à Albi, la force, c'est la taille, hein, parce qu'on a quand même des effectifs qui sont... On n'a pas à rougir, on a plus d'une centaine d'étudiants en première année. Mais après, donc, on travaille souvent sous format de petits groupes de 25-30 étudiants. Donc, ça veut dire que c'est un des atouts, vraiment une force, hein, d'Albi, c'est que chaque étudiant va faire des exposés, des recherches, on les connaît, on discute avec eux en fonction de leur goût, etc. Et donc, la part pratique, si vous voulez, est à peu près 50-50 avec la théorie, pour les cours généraux. Après, on a des cours vraiment spécialisés, ce qu'on appelle des TER, c'est des travaux de recherche. Hein. Mmh. Et là, ils travaillent en groupe. Et c'est que de la pratique. On leur donne un sujet. Et puis, ils vont, par exemple, en troisième année, faire un sujet de recherche aux archives. Ils vont vraiment faire de la recherche de l'histoire. Et puis, en première et en deuxième année, eh bien, ils ont un travail de terrain, puisqu'on leur demande de mettre en valeur du patrimoine local. Donc, on a fait une année, c'était autour de la Pérouse. On a fait une année autour de Saint-Juéry et du musée du Sceau du Sabot. Et puis là, cette année, on travaille sur les camps d'internement du Sud-Ouest, qui sont souvent méconnus, comme par exemple le camp de Brins à Gaillac. Mmh. Et donc là, ils travaillent très concrètement. Voilà, ils sont sur le terrain, ils vont interviewer des gens, ils vont aller aux archives. Et puis à la fin, ils font une page web, mmh, hein, qui sera ouverte au public, tout niveau. Hein, on s'adresse autant aux étudiants, aux élèves du secondaire, qu'aux curieux, hein, aux amoureux de l'histoire. Mmh. Et donc là, pour le coup, c'est du vrai pratique. Et puis, pour finir, ils doivent faire, pendant leur licence, à minima, un stage dans le milieu professionnel de leur choix. Donc, ils ont à 50 heures à faire, mais ils peuvent le faire plusieurs fois. Donc, ce qui fait que dans leur parcours, ils peuvent faire 2 voire 3 stages.
Sur CFM Radio, et nous nous intéressons aujourd'hui à la faculté d'histoire de l'Institut National Universitaire Champollion d'Albi, en compagnie de Sandrine Victor, responsable de filière, qui nous parle maintenant des conditions d'admissibilité.
Vous pouvez rentrer avec n'importe quel bac. Mmh. C'est vrai qu'il y a des bacs qui sont plus naturellement à même de nous fournir des étudiants, mais n'importe qui peut venir en fac d'histoire du moment qu'il a son bac ou un équivalent, c'est-à-dire un diplôme universitaire équivalent. Et puis, alors, le seul bémol que je vais mettre à ça, c'est un dernier parcours que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, qui est aussi un point fort à la licence d'histoire Albi. C'est qu'en première année, on propose aux étudiants de faire une préparation au concours d'entrée à Sciences Po. Donc, les concours parisiens et les concours de province. Donc là, pendant deux semestres, on les prépare vraiment au concours. Donc, ils ont des cours d'histoire avec ceux qui sont en licence d'histoire classique, mais ils ont des cours très spécifiques. Hein, voilà. Alors là, comme c'est une préparation au concours, on tient à avoir des effectifs réduits parce que c'est comme ça qu'on prépare les meilleurs étudiants, bien sûr. Et surtout, ben, on est obligé de se fondre dans les critères de Sciences Po. Hein, Sciences Po a des critères de recrutement voilà, qui sont des critères assez définis. Et donc, nous, on va accepter tous les dossiers, mais on va rencontrer les étudiants pour voir leur motivation, pour voir si leur profil correspond au profil Sciences Po, s'ils ont, par exemple, une mention au bac. Alors, les jeunes qui nous entendent peut-être ne sont pas très contents, mais voilà, ce n'est pas réducteur, mais voilà, c'est surtout de la motivation, parce que pour réussir un concours comme Sciences Po, c'est de la motivation. En fait, c'est le seul moment où peut-être il y aurait un critère d'entrée.
Il y a quelque chose qui m'intéresse toujours ici à l'Université d'Albi, c'est toutes les rencontres, les conférences qui sont données pour ceux qui ne sont pas forcément étudiants. Est-ce qu'on peut suivre des cours? Est-ce qu'on peut assister à des conférences si on n'est pas forcément étudiant ici à Albi, en histoire?
Oui, bien sûr, vous pouvez être auditeur libre. Hein, donc, alors, il y a deux façons d'être auditeur libre. La plus simple, c'est d'aller tout simplement au service administratif, à la scolarité. Et puis, vous allez vous faire en fait, enregistrer comme auditeur libre. Et alors, l'avantage d'être auditeur libre, c'est que vous pouvez choisir les cours de toutes les années exactement comme vous voulez, puisqu'on part du principe que vous ne passez pas les examens. Donc, vous pouvez suivre des cours de première, deuxième, troisième année en même temps. Vous en choisissez ce que vous voulez, comme vous voulez. En fonction des centres d'intérêt. Vous n'êtes pas obligé de choisir qu'en histoire. Hein, vous pouvez choisir dans les autres licences. Il n'y a absolument aucun souci. En plus, bon, en général, c'est une richesse parce que voilà, ce sont souvent des personnes qui sont curieuses, qui ont vu plein de choses. Et donc, on peut discuter. Les étudiants apprécient souvent quand il y a des extérieurs comme ça qui viennent. Et puis, bon, évidemment, les conférences sont toujours ouvertes au public. Pour cela, il faut se renseigner sur le site de la fac. Il y a un agenda et vous voyez les conférences qui sont proposées.
Revenons-en à la fac d'histoire d'Albi, Sandrine Victor. Dites-nous en résumé sur quoi portent les principaux cours. Ce n'est pas pour dénigrer certains, mais je pense que comme dans toute faculté, il y a quand même des cours qui sont importants. Décrivez-nous en quelques mots sur le contenu de ces cours-là.
Alors, écoutez, là, le plus simple, c'est d'aller dans le disciplinaire, hein, de voir période par période. En histoire antique, on travaille Rome, la Grèce, mais on va aussi se promener un petit peu en Mésopotamie. Alors, ça dépend des années, je ne vais pas faire le détail, mais voilà. En histoire médiévale, on part du haut Moyen-Âge, on part vraiment du 5e siècle, et puis on est obligé de courir sur le temps long. Après, on part un peu en Italie pour parler du pouvoir politique et de l'utilisation des arts comme une arme politique. Et puis, on va finir avec une étude sur les minorités en Méditerranée, voir un peu les échanges, les brassages, les migrations. Ensuite, en histoire moderne, l'histoire moderne commence sur le Royaume France et puis s'ouvre petit à petit en Europe et puis arriver à une échelle monde, l'histoire monde, avec les empires, avec les nouvelles découvertes, etc. Et puis en contemporaine, on va plutôt sur le 19-20e siècle autour de thèmes comme la santé, comme l'économie, comme l'école aussi, l'enseignement. C'est un choix aussi de ne pas trop traiter par exemple la Seconde Guerre mondiale parce que c'est vrai que les élèves de collège-lycée le font beaucoup. Donc nous, on veut leur ouvrir l'histoire contemporaine autrement, hein, leur donner d'autres billes puis qui sont en plus des grilles de lecture, comme je vous disais tout à l'heure, d'actualité qui sont assez intéressantes. Donc ça, c'est les principaux cours. Comme je disais, après, il y a des TER qui changent de thème chaque année. Hein, donc là, ça dépendra un petit peu. Et puis à partir de l'année prochaine, je vous disais, voilà, de l'histoire de l'art, on va ouvrir aussi des cours sur l'histoire du genre. On voudrait travailler, vous êtes dans mon bureau et il y a une liste de futurs cours. Donc on va faire de l'histoire de la musique, par exemple, ou l'histoire du fait guerrier, des faits militaires, voir un peu.
J'ai l'impression que c'est très centré européen quand même, l'histoire que vous étudiez.
Pas forcément, non. Par exemple, comme je disais, l'histoire moderne ou l'histoire contemporaine, c'est à l'échelle monde. L'histoire antique, on est sur le monde de l'époque, c'est le monde qu'on connaît, c'est le monde de la Méditerranée. À chaque fois, pendant très longtemps, il y a eu des cours sur les rapports entre Rome et Carthage. Hein, donc en fait, on était des deux côtés de la Méditerranée, mais ça correspond au monde qu'on connaissait à l'époque. Mmh. Et puis sur l'histoire médiévale, nous, on fait un vrai effort pour faire un monde qui est d'abord un monde plutôt occidental, qui irait des îles britanniques jusqu'aux confins de la Méditerranée. Puis après, on ouvre sur Byzance, sur l'islam, pour arriver donc à la veille des grandes découvertes. Hein. C'est-à-dire qu'on parle du monde en médiéval, surtout dans les connexions qu'on a avec lui à partir du cœur méditerranéen. Mmh. Alors, c'est vrai que moi, j'adorerais faire l'histoire de la Chine, l'histoire de l'Afrique, etc. Le problème, c'est les sources, on en a peu. Et puis, c'est le problème aussi, on part beaucoup de ce que connaît l'étudiant, de ce qui est sa zone de confort, parce qu'on manie des notions qui sont parfois complexes et on va leur inculquer des choses petit à petit. Et c'est vrai qu'on part de la zone Europe parce que c'est familier et à partir de là, on ouvre. Donc, première année, c'est vrai qu'on est très centré. Et puis ensuite, deuxième et troisième année, alors là, on part beaucoup plus loin.
Intéresse beaucoup, c'est l'histoire médiévale. J'espère que je ne fais pas très, très réducteur. Qu'est-ce qui vous a passionné ou amené à étudier l'histoire médiévale et surtout, qu'est-ce qui vous a étonné?
Alors, qu'est-ce qui m'étonne tous les jours, en fait? Il n'y a pas de... dans l'ordre. Qu'est-ce qui m'a amené à faire de l'histoire médiévale? Justement, une lecture de ma ville, une lecture du monde, c'est-à-dire que on est dans un monde où on est content, on a la chance par rapport, par exemple, au territoire nord-américain qui a un patrimoine assez réduit sur le bâti. Nous, on a la chance de pouvoir être dans des villes qui datent du 13e, 12e, 11e siècle. Et en me promenant, j'ai toujours aimé voir un petit peu ce qui m'entourait. Et j'ai voulu comprendre ça. Donc c'était au départ un petit peu une curiosité d'histoire de l'art. Et puis je suis rentrée par l'art dans l'histoire médiévale. Et donc ma spécialité, c'est de travailler sur les métiers du bâtiment et de la construction au XVe siècle. Alors je suis rentrée par l'art, je suis rentrée par le bâti, et très rapidement, le bâti, c'est très intéressant, je vais laisser ça aux architectes, et je me suis intéressée aux hommes, parce que en travaillant un petit peu la période, le thème, je me suis rendu compte qu'on ne connaît pas les grands architectes, ça c'est sûr, mais alors encore moins les gens de tous les jours qui ont construit nos villes. Pourtant, on vit dedans. On a nos cathédrales, on a nos palais, on a nos maisons, on a nos rues. Mettre un nom, c'est juste impossible. Et somme toute, ce fut nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, arrière-grands-pères, qui ont manié la pierre, qui ont manié la truelle, etc. Et moi, j'ai voulu mettre du social et de l'économique dans l'histoire du bâtiment. Et donc, à partir de documents qui apparemment ne sont pas très sexy, les comptabilités. sexy. Mais là, la comptabilité médiévale est très drôle, je vous assure. C'est pas du tout de la comptabilité analytique, c'est quelque chose, ils nous donnent beaucoup de détails, ils nous racontent littéralement la vie du moment, sur le quotidien. Ils vont nous expliquer qu'un tel n'est pas allé travailler parce qu'il pleuvait, que sa femme était malade, ou alors que son âne s'est cassé une patte, enfin bon, voilà. Mmh. Et donc, petit à petit, j'ai essayé de mettre de la chair hein, du vrai, de l'homme, derrière les bâtiments. Et c'est comme ça qu'au final, je suis rentrée dans la ville médiévale. Et je vous dis, elle m'étonne tous les jours parce qu'on arrive toujours à raconter des choses, à voir des histoires, à voir les hommes qui furent à l'origine de nos sociétés. Voilà, ils ne sont pas différents de nous. C'est la distance chronologique que je refuse totalement.
On va s'intéresser maintenant au volet de recherche que vous menez ici, parce que très souvent les enseignants sont également des chercheurs. Vous faites partie d'une équipe, d'un groupe de 15 chercheurs en lettres, langues, histoire, texte, contexte et frontières, TCF donc. Quels sont les objectifs de cette équipe de recherche-là ?
Alors, c'est vrai ce que vous dites. Tous les enseignants, enfin la majorité des enseignants sont des enseignants-chercheurs. Donc on a tous un pan de recherche. Et il s'est trouvé que Albi a à nouveau cette force, c'est la proximité. Donc là où dans les grandes universités, les chercheurs en histoire se retrouvent entre chercheurs en histoire, les chercheurs en géographie entre chercheurs en géographie, bien là, Albi, nous, on s'est retrouvés à faire une équipe justement transdisciplinaire où chacun venait avec sa spécialité lire des thèmes qui nous étaient pourtant communs. Donc par exemple, la frontière, le texte. Et le contexte, parce que somme toute, que ce soit un contexte géographique, historique ou littéraire, on est ensemble et on peut apporter des regards différenciés. Donc l'objectif, c'est de mettre en valeur les travaux des différents chercheurs autour de ces thèmes-là, et surtout de provoquer des synergies, hein, provoquer des moments communs, des manifestations communes de recherche, qui n'aurait pas pu voir le jour dans une université de très grand format. C'est pas naturel, contrairement à ce qu'on peut croire, hein, qu'un chercheur demande spécialement à un chercheur en histoire, à un géographe ou à quelqu'un en lettres, de venir travailler avec lui sur un sujet donné. Alors c'est dans ce cadre-là, par exemple, à titre personnel, l'année prochaine, en octobre, on est en train d'organiser un colloque autour de la Mappa Mundi d'Albi, que vous avez peut-être connu,
oui,
parce que voilà. Sur
votre porte, voilà. Vous allez vous poser une question dessus, donc voilà.
Et donc, en fait, cette Mappa Mundi, c'est un document exceptionnel du 8e siècle que l'on a ici à Albi et qui vient d'être reconnu aux mémoires de l'UNESCO, donc c'est très bien. Bah, c'était un petit jouet pour, si vous voulez, les historiens, mais je trouve quand même que des géographes ont des choses à dire, et puis des sociologues aussi, et puis peut-être des psychologues, pourquoi pas, sur de la représentation de l'espace, etc. Et donc c'est avec un collègue géographe qu'on monte ce colloque pour écouter, voilà. Chacun à dire, sur du temps long, on partira de l'Antiquité, on arrivera en gros au GPS, qu'est-ce que la carte ? Et voir la carte comme un objet social, un objet d'enjeu politique, et pas simplement un support de connaissances. Donc voilà, c'est par exemple ce genre de choses qu'on peut faire dans le cadre de TCF.
Donc aborder par des angles ou des visions différentes un sujet en particulier, c'est qui permet d'enrichir forcément vos analyses et votre recherche.
Exactement, c'est que on peut pas, il faut sortir de l'image du chercheur dans sa tour hein, qui va travailler tout seul. La recherche tout seul, ça peut pas se faire. Alors, tous les chercheurs d'Albi sont majoritairement dans des gros labos, en particulier à Toulouse, hein, parce qu'on travaille beaucoup avec l'université de Toulouse. Mais on a eu cette idée de créer quelque chose à Albi aussi pour pouvoir confronter tout ça. Alors, un autre exemple que je peux vous donner qui est assez parlant aussi, c'est il y a quelques années, avec une collègue historienne, on a monté un colloque qui s'appelait « Le professionnel et la professionnalisation des activités ». Et on a invité donc des géographes qui nous ont parlé par exemple un nouveau professionnel, le passeur, celui qui fait passer les migrants d'un côté à l'autre d'une frontière. On a invité des collègues sociologues, par exemple un collègue nous a parlé de la sociologie du foot, savoir comment le foot qui est un jeu devient un jeu professionnel et on a des professionnels du foot. Et puis, on a d'autres qui sont venus nous parler de l'écrit, comment l'écriture, qui est une compétence, devient une compétence professionnelle et il y a une professionnalisation de l'écriture. Donc, vous voyez, historien, géographe, sociologue, j'en oublie sûrement parce qu'on a eu deux volets, on a eu deux journées assez denses, ça peut se faire à Albi et j'ai presque envie de dire ça peut se faire qu'à Albi. Je le vends bien, non ?
Faites-moi rêver maintenant, parlez-moi du sujet de recherche sur lequel vous travaillez actuellement et qui vous passionne. Imaginez que vous me rencontriez dans la rue, au bistrot, n'importe où, et que vous voulez me démontrer l'intérêt de ce sujet de recherche-là.
Alors le problème, c'est qu'un chercheur, par définition, est exalté par beaucoup de choses. Donc là, je me passionne pour plusieurs sujets en ce moment. Je travaille en ce moment sur l'esclavage au Moyen-Âge, parce qu'on parle beaucoup de l'esclavage antique et après l'esclavage moderne avec, avec la, la traite. Mais au milieu, il y a ce, ce temps du Moyen-Âge qui fait que souvent on dit ben, l'esclavage a disparu pendant le Moyen-Âge. En fait, ce n'est pas vrai, mais il y avait des formes qui nous échappent. Donc là, je suis en train de travailler sur ça. Je travaille sur la Mapamundi également, donc, comme je vous l'ai dit. Et puis mon gros truc du moment, c'est m'interroger sur des notions qui sont des notions modernes, c'est-à-dire appliquer au Moyen-Âge les notions d'entreprise, de protection du marché et de consommation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un marché médiéval ? Comment, sur ce marché, on va garantir la qualité des produits qu'on échange, garantir voilà, les affaires, faire des affaires, comment je fais des affaires avec quelqu'un, comment le consommateur, en fait, je le protège contre les malfaçons, pour avoir des produits de bonne qualité. Est-ce qu'au final, tout ça, ça ne me met pas en place des personnages qui seraient des espèces d'entrepreneurs, des businessmen, qui saisiraient des opportunités d'affaires ? Et donc, au final, est-ce que l'homme médiéval monte des entreprises ? Qui ne sont pas des entreprises comme on connaît, avec des statuts, etc. Mais moi, je vois beaucoup de gens, par exemple, dans le bâtiment, qui vendent des tuiles, qui vont vendre leurs tuiles sur le marché d'à côté, du village d'à côté. Et puis, pour y aller, eh ben, ils vont prendre un âne pour porter leurs tuiles. Puis, ils finissent par vendre l'âne. Donc là, ils commencent à faire un petit business parce qu'ils ont une valeur ajoutée. Puis, ils reviennent. Donc, ils n'ont plus leurs tuiles, ils n'ont plus leur âne. Mais on voit qu'ils reviennent avec une charrette qui est pleine de choux et qu'ils vont vendre ces choux. Et au final, ils rendent service à quelqu'un parce qu'ils leur ont prêté de l'argent. Et puis donc, il va dire, bah, tu ne me rends pas tout de suite, mais par contre, je veux bien que la prochaine fois, il y a des... Voilà. Et donc, c'est du business, mais de façon très naturelle. C'est quelque chose... Alors, il y en a beaucoup qui parlaient de précapitalisme. J'aime pas trop la définition. Moi, je trouve que c'est simplement un sens des affaires. C'est un moment, je vous vois, je vous dis, bah, top là, allez, ok, on le fait. Et donc, je suis en train de pister ça.
Certains cherchent la source du Nil, vous cherchez la source des traders ou des businessmen, c'est ça ?
Exactement, je cherche l'origine des businessmen. Mais je pense qu'ils étaient, ils étaient très opportunistes, très ouverts à tout ce qui passait et tout faisait ventre au final. Et il n'y avait pas de problème. Et moi, je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, je pense que voilà, en effet, ça peut paraître étonnant pour le Moyen-Âge, mais ça l'est pas tellement.
C'est surtout le lien que l'on peut faire, par exemple. On a toujours l'impression que certaines choses sont vraiment contemporaines, mais le lien avec l'actualité, je le vois directement quand vous parlez, là.
Oui, bah, là, moi, je vois plein de choses. Je vois des affaires que l'on fait, même avec des gens qui ne nous sont pas familiers. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient sur le marché de la ville d'à côté, c'est l'étranger qu'on connaît. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va nous être conseillé, qui va nous être apporté par quelqu'un. Mais c'est aussi l'étranger qui vient de bien plus loin. Par exemple, un petit exemple. Sur les travaux du palais de Jean de Berry, les sols ont été faits par des musulmans qui venaient d'Andalousie. Ils ont été logés, ils ont été accueillis, on a travaillé avec eux. Ils ont même expliqué aux gens qui faisaient les terres cuites du coin comment faire les couleurs, etc. Alors moi, quand je vois dans l'actualité qu'on veut monter les communautés les unes contre les autres, ça m'échappe un peu parce que je me dis, mais pourquoi ? Parce qu'au final, on pouvait faire venir des gens de l'autre bout de l'Europe, les faire travailler, travailler avec eux, apprendre d'eux, communiquer au final, parce que la langue n'était pas un problème. Et du moment que ce qu'on appelait la fama, c'est-à-dire la réputation, du moment que vous étiez quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui on pouvait, avec qui on pouvait faire des affaires, il n'y a aucun problème. Les marchands italiens vendaient jusqu'aux Flandres. Ils repartaient sur Marco Polo. Hein, ils allaient très très loin en Orient. On faisait des affaires très fructueuses avec le nord de l'Afrique, avec l'Afrique noire aussi, par intermédiaire bien sûr. Il n'y avait absolument aucun souci. Donc en fait, moi je pense que... Alors c'est peut-être, peut-être réducteur, mais qu'au final, quand on veut faire des affaires avec quelqu'un, on s'entend toujours. Il n'y a aucun problème.
La langue est facile à trouver,
il n'y a aucun souci. Et donc, moi, c'est ce que je vois. C'est plus un marché de confiance. C'est la parole donnée. Par contre, voilà, la parole donnée, ça compte. Et être infâme, c'est plutôt avoir des gens qui n'ont pas retenu qui n'ont pas tenu leur parole à un moment. Et donc là, ça peut être les voisins du coin, s'ils n'ont pas tenu leur parole, on va les mettre de côté, que quelqu'un qui vient de plus loin eh bien, s'il a, il a voilà, une bonne parole, si on, on voit qu'on peut traiter avec lui, il n'y a absolument aucun souci. Tout va.
Qu'est-ce qui est important selon vous pour comprendre le travail d'un enseignant-chercheur et plus particulièrement, je vais dire, en histoire, dans votre cas?
Alors, comprendre le travail, je ne sais pas. Je sais qu'en fait, le fond du travail d'un enseignant-chercheur, c'est d'essayer, et c'est très difficile, de transmettre une passion. Par définition, une passion, c'est un peu personnel. Mmh. C'est quelque chose qui, à un moment, nous, dans notre parcours, nous a paru évident. Et pour arriver à être enseignant-chercheur, c'est un parcours du combattant. Il faut faire la thèse, il y a ensuite des habilitations, des qualifications. Il y a des recrutements qui sont sur concours, mais on est recruté par nos pairs. Donc, parfois, voilà, entre le moment où on fait la thèse et le moment où vraiment on est enseignant-chercheur, il peut y avoir 10 ans qui passent. Mmh. Et donc, vous rentrez dans le monde professionnel à 35 ans. Donc, c'est une vraie passion, parce que si vous n'avez pas ce feu qui vous tient, sans doute, vous ne faites pas ça. Donc, souvent, c'est ça, c'est réussir à transmettre aux étudiants cette passion de l'histoire. Mmh. Et puis transmettre au public aussi ce goût de l'histoire, c'est-à-dire arriver à sortir de nos thèmes de recherche qui peuvent être un petit peu comme ça, obscurs, abscons, etc. Et puis aller parler aux gens. Et on se rend compte qu'en histoire, il y a beaucoup de gens qui aiment l'histoire, qui regardent des documentaires historiques. Chaque année, vous savez, il y a la nuit des chercheurs à Albi depuis 2 ans. Et c'est vrai qu'on est toujours surpris du nombre de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, c'est génial, j'adorerais faire ça ». Et on discutait avec eux, échangeait avec eux. Pour moi, c'est très porteur. Ça fait partie du rôle social de l'enseignant-chercheur.
Nous étions frères un jour et les choses ont changé, c'est vrai. Il est parti. 18 mois à l'autre bout de la terre, éprouver son corps et sa tête dans les champs de bananes d'Océanie où l'on se lève à l'aube, éprouver le reste. Sur les plages asiatiques où l'on goûte au bonheur de synthèse et aux espaces infinis que les eaux couvrent la nuit. Où l'on se lève à l'aube. Et si nous avons pleuré ensemble ce jour de septembre où nous nous sommes quittés, c'est qu'on savait que l'infinie tendresse, la mémoire et le téléphone mobile sont peu de choses contre la distance, que tout allait changer. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube. Ouais, faut bien s'arracher. D'abord, il y a l'âge libre avant la vie domestique, qu'on attend tous comme une sentence absurde et nécessaire. Et puis, ces chimères à fuir, qu'on croit laisser aux portes des avions long courrier. Enfin, la peur de s'engraisser ici, que le confort nous abêtisse. Il est parti. C'est qu'il se lève à l'aube. C'est qu'il se lève à l'aube. Dans nos longues nuits blanches qui s'en allaient mourir dans le cendrier, on a beaucoup rêvé et attendu que les choses adviennent, comme par enchantement. Des lendemains de ces soirs grisés, il me souvient surtout l'odeur amère du tabac froid, la torpeur qu'engendrait le shit qu'on fume, l'impuissance et l'orgueil. Il faut choisir, la vie est ailleurs. Voilà ce qu'on se disait. Il est parti. C'est qu'il se lève à l'aube. C'est qu'il se lève à l'aube.
La suite de Rando Champeau sur CFM. Si vous nous avez rejoint entre-temps, vous écoutez le premier numéro d'une série d'émissions qui nous verra arpenter d'une certaine manière le campus de l'Institut National Universitaire Champollion d'Albi. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la faculté d'histoire en compagnie de Sandrine Victor, responsable de cette formation.
La vie des pays au son de la pop et du rock dans le Tarn. La vie des pays, CFM.
Étudier l'histoire, somme toute, c'est vrai qu'on peut étudier l'histoire n'importe où. Étudier à Albi, c'est différent. C'est un confort. Alors, peut-être vous l'avez vu, on a été plusieurs années meilleure fac de France pour la réussite en licence. Là, je crois qu'on est 3 ou 5e, je ne sais plus. On a la valeur ajoutée aussi, meilleure fac pour les valeurs ajoutées aux études. Donc, c'est un petit campus, déjà. Donc, il y a ce côté familial, ce qui fait qu'on connaît nos étudiants. On a des amphis devant nous, mais au final, on arrive très vite à connaître les étudiants. Les étudiants nous parlent assez facilement, ce qui fait qu'on sait les difficultés et donc on peut aider. On est disponible. Voilà, une difficulté personnelle ou une difficulté d'apprentissage, ben vous savez où se trouve le prof, vous pouvez aller tranquillement lui parler, il n'y a aucun problème. La distanciation qu'il y a dans les grandes universités entre les enseignants et les étudiants se gomme franchement à Albi. Les profs vont travailler à la BU et donc, souvent, voilà, on est avec les étudiants. Les ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les effectifs en TD qui sont des petits effectifs. Ce qui fait que tous les étudiants d'Albi auront fait, dans leur parcours, au moins, un exposé par semestre, par matière. Ce qui fait que l'exercice oral, ils le connaissent. Ils l'ont déjà pratiqué. Alors, vous allez dire, oui, c'est un exercice comme un autre. Bah, pas du tout. L'exercice oral, c'est l'entretien d'embauche. C'est l'entretien pour les concours. Hein, c'est l'oral des concours, etc. Et dans les grandes facs, bah, ils sont tellement nombreux que souvent, ils ne peuvent pas passer en exposé. Et donc, il m'est arrivé de voir des étudiants en master qui n'avaient jamais parlé en public. Là, nos étudiants, ils parlent en public. Et puis, les étudiants peuvent facilement nous saisir. À l'inverse, nous aussi, on saisit facilement les étudiants. Donc, souvent, la filière d'histoire, donc la licence d'histoire, demande à des étudiants de travailler un peu pour nous, c'est-à-dire de monter des choses. Là, très récemment, on a demandé à des étudiants de créer un espèce de café histoire, des débats historiques. Et en fait, on leur a laissé carte blanche, on leur fait confiance parce qu'on les connaît. Donc, vous avez ici avec nous Clément, qui a été un des organisateurs de ces cafés. On leur a donné l'idée, on leur a donné plus ou moins les pistes et on leur a fait confiance. Et donc, pour ces jeunes, c'est une façon de faire des choses qui peuvent être après dans le CV, bien sûr, de prendre des responsabilités, de vivre autrement leur licence. Alors, dans le même goût, il y a des ciné-histoires. On essaye de monter des choses où ils pourront, eux, vraiment s'impliquer, intervenir. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est la réciprocité, Alors, comme disent les Américains, c'est un peu win-win. Hein. Chacun y trouve son compte. Et moi, là, franchement, je reste persuadée que c'est la force d'Albi en histoire. Comme je vous disais tout à l'heure pour la recherche, la transversalité, c'est-à-dire que ils sont en histoire, mais on côtoie les géographes, les sociologues, les psychologues, nos amis de sciences, nos amis de droit. On est tous sur le même campus. On est vraiment à proximité. C'est pas des campus séparés. Donc en fait, on peut partager des choses, s'interroger sur des choses. L'histoire du droit. Est-ce que c'est de l'histoire? Est-ce que c'est du droit? Allons en discuter directement avec eux. Ils sont de l'autre côté la cour. Ouais. Et je pense que c'est une richesse.
Avant de conclure cette émission, je vais saisir la balle au bon et poser une question à Clément, qui est avec nous. Donc Clément est étudiant en troisième année de la fac d'histoire ici. Sandrine Victor a parlé de ces cafés histoire que vous avez organisés. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'ils ont lieu et par exemple quels sont les thèmes qui sont abordés durant ces cafés-là? Déjà, bonjour Clément.
Bonjour. Quand on nous a proposé le sujet, on nous a demandé qu'est-ce qui pourrait nous intéresser. Et en fait, nous, ce qui nous a intéressé à un moment donné, on s'est posé la question du genre. En fait, on s'est posé la question de qu'est-ce que pourrait être cette définition. Donc, je ne l'ai pas fait tout seul. C'est-à-dire qu'on s'est mis en commun. Moi, j'étais avec une autre étudiante. Et on a fait, du coup, ce café histoire, on l'a fait dans un bar d'Albi, le Cosy. D'ailleurs, c'est un très bon bar. Ouais, il faut y aller. c'est un très, très bon. Mais du coup, on a invité les gens, en fait, à venir. Donc, il y a eu des gens qui étaient, il y avait pas mal de gens qui étaient étudiants en histoire et centrés sur l'histoire. Et moi, j'avais fait, par exemple, fait venir un copain qui était en socio. Et c'était intéressant, justement, parce qu'en socio, on travaille, par exemple, justement, ces concepts de genre d'une autre manière, en s'appuyant, par exemple, sur des auteurs comme Bourdieu et tout ça. Et du coup, ça donne une vision sur un peu tout ça. On avait préparé une grille de questions, on avait fait une introduction un peu sur l'histoire du genre, comment ça avait évolué. Et après, on a laissé en fait place au débat sur en gros comment... mais est-ce que c'est des questions intéressantes aujourd'hui? Pourquoi à un moment donné ça a posé problème et tout ça? Et en fait, c'est intéressant qu'on ait la chance de faire ça parce que quand on voit dans les cours théoriques ou les choses comme ça, on entend les cours, mais ça ne rentre pas vraiment. Tandis que quand on s'y intéresse, on peut travailler dessus c'est un peu plus concret. Le fait d'y avoir mis sa patte, quand ça se passe bien, en plus, il y a un côté assez... on se sent bien d'avoir fait quelque chose comme ça.
Ouais. Toi, Clément, tu as bientôt fini ta licence ici, ou en tout cas, on te le souhaite, on ne sait jamais hein, ce qui peut arriver. Tu penses à quoi après ?
Alors, je pense à... Alors là, visiblement, je partirai peut-être en recherche sur le master, du coup encadré peut-être par Madame Victor. Mais après, c'est du coup, je ne sais pas, parce que moi, pareil, justement, vu qu'on a eu des cours qui nous ont ouvert d'autres portes, moi, justement, il y a un pan que là, je viens d'apprendre que l'histoire de l'art allait être intégrée à distance. Et moi, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment intéressé, en fait. Ouais. Parce que, justement, je trouve que l'histoire de l'art, ça se lie bien à tout ça. Du coup, pourquoi pas, donc, parce qu'en fait, l'avantage du master recherche, c'est qu'on fait 2 ans, donc, du coup, de recherche, ça nous apprend une méthodologie. Et après, je peux toujours passer les concours, les de, concours. De l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est un pan qui me dit bien aussi. Mais je peux aussi, par exemple, ben, si le patrimoine m'intéresse aussi, je peux m'intéresser à ça. Et si jamais j'ai la capacité, on va dire l'envie, la motivation de trouver le feu, comme vous avez dit, de trouver le feu de la recherche, pourquoi pas la recherche. Mais je pense que c'est juste que ça me donne 2 ans d'intérêt. Et puis 2 ans intéressants, parce que la recherche, ça permet de travailler des sujets qui nous intéressent. Et voilà.
Bon. Écoute, on te le souhaite hein, de trouver ce qui t'intéresse, mais moi je crois que c'est un de gagner pour la recherche.
En plus, c'est vrai qu'en master recherche, un des avantages, c'est par exemple si l'histoire de l'art l'intéresse, l'histoire médiévale aussi, on peut trouver un sujet aux petits oignons, si vous me permettez l'expression, pour lui. C'est-à-dire qu'on peut trouver un sujet qui lie à la fois le patrimoine et l'histoire. Donc au final, il fait 2 ans de recherche, il se régale. C'est ce que je lui souhaite. Et après, même s'il veut partir sur le patrimoine, bah, c'est un plus, parce que son sujet est un sujet lié... Voilà. Alors, j'ai l'exemple d'une étudiante il y a quelques années qui cherchait justement une piste pour le patrimoine, elle ne savait pas. Et elle a fait un master recherche sur les ponts de Toulouse. Donc, c'est du patrimoine bâti. Elle a pu... Voilà. Et en fait, elle a valorisé ce sujet qui est de la recherche pure en histoire pour après prolonger sur du patrimoine.
On a évoqué comme ça quelques débouchés que permettent... une licence en histoire, un master en histoire. Est-ce que vous avez d'autres métiers que vous pouvez nous dire ? Un étudiant qui sort de l'université d'Albi avec une licence en histoire, il fait quoi après ?
Alors, bah, souvent, bon, c'est vrai que de façon générale, au niveau national, avec une licence, maintenant, vu le marché de l'emploi, on encourage à partir sur des masters, ça, c'est évident. Alors, les pistes, bon, il y a l'enseignement, quel que soit le niveau. Le journalisme, beaucoup. Hein, il y a beaucoup d'étudiants en histoire qui vont après dans le journalisme, presse écrite, radio, télé, hein, de façon assez indéterminée. Tout ce qui est lié aux sciences politiques, à l'administration. Après, les grands métiers liés aux livres, en général, c'est-à-dire bibliothécaire, documentaliste. Vous avez aussi tout ce qui est lié aux archives. Et puis donc, les métiers liés à la valorisation du patrimoine, que ce soit un patrimoine voilà, matériel ou immatériel. Ou alors des métiers qui sont liés au tourisme. On a un ancien étudiant qui travaille dans l'économie du tourisme. Voilà. Puis le dernier pan que l'on voit surgir, c'est le pan associatif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui deviennent professionnels et qui travaillent dans le milieu associatif. Hein, parce que c'est vrai qu'ici aussi, un des avantages du campus, hein, c'est qu'ils peuvent vraiment participer à la vie des associations, se former au monde associatif. Et au final, on a beaucoup d'étudiants qui en font leur métier ensuite.
Vous l'avez distillé tout au long de cet entretien, mais là, on va essayer de synthétiser tout ça. On étudie l'histoire parce que...
On étudie l'histoire parce que c'est formidable. J'adore la pause. Non, on étudie l'histoire parce que c'est le meilleur moyen de lire le présent, que c'est quelque chose qui vous construit toute votre vie. C'est-à-dire, ce que vous apprendrez en histoire, c'est de la méthodologie, quel que soit après le métier que vous faites. C'est un savoir qui est un savoir fondateur pour la personnalité des gens. C'est ouverture, curiosité, ouverture aux autres, avoir un esprit critique, ne pas laisser les choses comme ça en suspens, aller gratter, aller toujours un peu... L'historien, c'est un petit peu le caillou dans la botte. Vous savez, celui qui ne vous laisse jamais en paix. Et puis, c'est surtout... pour moi, on étudie l'histoire parce que c'est quelque chose qui peut vraiment... vous apporter des moments de vrai bonheur intellectuel. C'est vraiment, on lit des choses qui sont extraordinaires, on va dans des archives, en troisième année, dès la licence ici, hein, ils peuvent aller aux archives, vous allez dans les archives, vous ouvrez des documents, 18e siècle, 17e, 16e, 13e siècle, 14e siècle. Moi, les étudiants qui ont ouvert des manuscrits du 14e siècle, il y en a qui ne s'en sont jamais remis, parce que c'est extraordinaire. On travaille avec la médiathèque aussi, on a pu aller voir des manuscrits donc, du 8e siècle, on a travaillé sur un roman de La Rose du 14e siècle. Vous ouvrez ça, ça ne vous laisse pas indifférent si vous faites de l'histoire. Vraiment, vous y trouvez une richesse personnelle qui est extrême.
On va dire que c'est le dernier mot.
On va dire que c'est le dernier. Engagez-vous.
Merci Sandrine.
Merci beaucoup.
Et pour compléter, suivez toute l'actualité de la faculté d'histoire d'Albi en ligne sur leur page Facebook et bien évidemment toutes les informations sur cette filière sur le site de l'Institut National Universitaire Champollion d'Albi, univ-jfc.fr. Rando Champeau, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur CFM pour découvrir une autre filière. Cold, you just drive you cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't
bande de jeunes. Alors comme ça, l'avenir, ça vous fait peur?
Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune?
Ouais, c'est pas faux. Alors, pour remédier à ça, Rando Champeau explore les filières de la fac d'Albi à la rencontre des enseignants-chercheurs. Pour tout savoir sur la licence qui vous convient, Rando Champeau, c'est tous les mercredis à 13h et en podcast sur cfmradio.fr.